Il y avait un ministre, Lionel Jospin, qui avait compris l'importance de l'enseignement supérieur et de la recherche, et puis surtout qui a eu l'intelligence de s'associer les services d'un conseiller spécial assez exceptionnel, Claude Allègre, et c'est Claude Allègre qui a eu l'idée de l'IUF. Il vient de vous en raconter tous les épisodes vus du point de vue de celui qui l'a pensé, qui l'a créé, qui s'est battu politiquement pour l'obtenir, qui a créé les outils tout autour pour que ça puisse fonctionner. Et moi, je suis là aujourd'hui pour vous raconter un peu comment ça se passait ensuite dans les soutes de la locomotive, là où il fallait faire fonctionner la machine et donc transformer de grandes idées politiques en de réelles réalisations administratives dans cette jungle visqueuse dont Claude vient de vous parler, dans laquelle, en effet, il n'est vraiment pas facile de rénover. Donc je suis le soutien de l'opération avec une équipe, comme l'a dit Claude, il avait créé cette direction de la recherche et d'études doctorales qui était une idée, une autre des idées extrêmement originales. Et comme il l'a dit très bien, j'avais autour de moi une équipe que j'avais mis du temps à rassembler, en particulier sept directeurs scientifiques exceptionnels qui sont tous, qui étaient déjà tous assez remarquables, mais disons qu'on a quand même identifié, avant que ne viennent les reconnaître, des médailles d'argent du CNRS, des prix internationaux, la médaille d'or de l'INSERM ou bien l'Académie des sciences ou les académies étrangères. Et donc je suis très fier de cette équipe extraordinaire qui m'avait entouré, dont beaucoup sont passés dans la suite par l'IUF, sont devenus professeurs de l'IUF, dont tous sont restés mes amis, dont plusieurs sont présents dans cette salle. Et puis une équipe administrative avec un directeur adjoint, Bernard Dormy, et des collaborateurs, et je pense en particulier à Françoise Chambon qui est là aujourd'hui et qui était membre de cette équipe de la DRED et qui, je crois, est considérée par les générations successives de membres de l'IUF comme la marraine de l'Institut universitaire de France, celle qui assure son bon fonctionnement, celle qui assure la continuité de l'esprit des fondateurs, et puis aussi celle qui connaît un peu l'histoire et qui m'a beaucoup aidé à être non seulement le soutier, mais le greffier de l'opération. Et donc aujourd'hui, je suis soutier et greffier. Françoise, des applaudissements bien mérités. Et donc, grâce aux documents qu'a conservé Françoise et qu'elle m'a retransmis avant la journée d'aujourd'hui, et grâce aussi au fait qu'à l'époque, géologue entraîné sur le terrain, j'avais l'habitude de noircir des carnets de notes face aux affleurements, j'ai continué quand Claude Allègre et Lionel Jospin m'ont demandé cette chose étrange à l'âge de 40 ans de devenir directeur d'une administration centrale. Ça m'a terrorisé. Je me suis dit que j'en serais complètement incapable et que sans l'aide de mes carnets, je n'y arriverais pas. Ces carnets, je les ai ensuite enterrés et à l'occasion de cette manifestation, j'ai retrouvé 9 volumes de 150 pages de notes que j'ai pris, y compris des tas de phrases, monsieur le ministre, que je n'oserais pas répéter en public, mais qui réjouissaient les équipes qui travaillaient autour de toi à l'époque. Et c'est muni de tout ça que le greffier va vous raconter rapidement quelles sont les étapes qui nous ont mené du temps T0. Et c'est évidemment le temps et de ma mémoire et des sources que j'ai pu retrouver, le 22 août 1989, où Claude Allègre, entouré, et il le faisait chaque semaine, de ses quatre directeurs dont il vous a parlé, Armand Frémont, Jean Gazol, Franck Métras et moi-même, débattait des idées de tout ce qu'on allait mettre en place et nous a ouvert d'abord son idée de créer un conseil scientifique auprès du ministre, la première fois qu'un ministre lui-même demandait qu'un comité l'évalue. Et Claude, une des choses que tu n'as pas dites tout à l'heure en rappelant ce premier conseil scientifique présidé par Jean-Marie Lène, c'est le fait que ce comité se réunissait tous les 6 mois, pendant 2 jours pleins, travaillait, nous écoutait, nous convoquait, ensuite se réunissait à huis clos sans aucun représentant de l'administration, rédigeait un avis. Cet avis nous était remis et 2 heures après, il était remis à la presse. Et donc, en temps réel, on montrait comment, puisqu'on voulait évaluer les autres, on montrait comment on acceptait nous-mêmes d'être évalués. Et ce conseil, je regrette énormément que Jean-Marie n'ait pas pu rester un jour de plus. On avait beaucoup de souvenirs à évoquer ensemble. Deuxième idée qu'a évoquée devant nous Claude Allègre, c'était l'idée de créer un Collège de France sans mur. Et vous allez voir les quelques noms qu'a eu votre institution avant de devenir l'IUF, avec les idées que j'ai mises ici entre parenthèses pour conserver ces notes. Mais Claude Allègre vous en a déjà dit l'essentiel, créer des chaires de haut niveau, le problème des postes de compensation, l'idée d'avoir un volet plus important numériquement pour les jeunes, avec l'idée d'avoir une décharge de service. Et vous le verrez, l'idée de la décharge de service a été sans doute une chose qui nous a fait perdre plus d'un an, mais c'était très important que nous y arrivions. Et puis ensuite, vous verrez, j'ai mis des dates avec des durées à partir de ce temps T0. Un mois et demi après, nous constituons le Conseil scientifique sous l'autorité de Claude Allègre. Nous en confions la présidence à Jean-Marie Lène. Et officiellement, on lui dit qu'on va lui demander, à lui et à son conseil, son avis sur la création d'une école des hautes études. Voilà, un mois et demi après, le nom que vous aviez pris. Un peu plus tard, on précise les choses et j'ai des notes d'une conversation entre Claude et moi où il me donne en gros les grands axes, créer 10 à 15 chaires pour les actifs excellents, la décharge partielle de service, le soutien financier, l'idée que les juniors soient déchargés de service pour 4 ans et l'idée que l'équipe des directeurs scientifiques de la direction de la recherche et des études doctorales identifie pour lancer l'affaire une première série de candidats potentiels. Et vous allez voir comment, parallèlement, on mène d'un côté la bataille administrative et de l'autre côté la réalisation de l'opération dans des conditions totalement illégales et en parallèle du reste. Au bout de 2 mois et demi, Claude rédige le premier jet sur la création de l'Institut des hautes études et nous indique que, d'une part, la direction de la recherche et moi-même, nous devons préparer les textes sur les programmes thématiques et les jeunes équipes, quelques autres idées qui ont été menées en même temps, tandis que Jean Gazol, dont Claude a souligné l'extraordinaire efficacité, préparait la campagne de revalorisation des enseignants-chercheurs. Et le 23 novembre, à la Sorbonne, se réunit pour la première fois le Conseil scientifique présidé par Jean-Marie Lène. Et parmi tous ces débats qui ont duré 2 jours, il donne un avis favorable à la création d'un Institut national des hautes études scientifiques universitaires. Voilà le troisième nom de l'IUF. 5 mois et demi se sont écoulés et c'est la première fois qu'apparaît, le 6 février 1990, le nom d'IUF dans mes notes. Alors, je ne me souviens pas, Claude, exactement quand le nom est apparu pour toi, mais moi, c'est donc à cette période-là. On met en place un groupe de travail pour en définir les statuts et on est en train de se dire, qu'est-ce que ça va être ce machin-là? Est-ce que ça va être un EPCSCP, l'un des jargons des structures qui étaient disponibles? Et on rappelle un peu quelles sont les conditions qu'on doit respecter, en particulier la notion de décharge de service, la convention avec l'université établissant les liens entre l'IUF et l'université dans laquelle le lauréat doit rester. Et puis le renouvellement du poste, toute chose était, on nous a expliqué, légalement totalement impossible. Donc il nous fallait peut-être des décrets, peut-être même la loi. Nous espérions alors publier le texte fondateur en octobre de la même année. 90. En février, dans les notes de mon adjoint Bernard Dormy, figure le premier projet de loi, donc on avait dit c'est une loi, et 3 projets de décret offerts à la sagacité du conseiller spécial et du ministre, ou bien on vous propose un établissement public, ou bien un service de la direction de la recherche, ou bien une fondation. Et puis il y avait une autre idée qui traitait dans l'air, c'est si ça ne marche pas, on peut même faire une association. Claude, en février, me fournit une première liste des membres du comité de sélection. On prend contact avec les membres du conseil scientifique de Lène et Jean-Marie Lène lui-même et on commence à insister sur le fait que ce jury, cette procédure, prenne bien soin de prendre des avis à l'étranger, tienne compte de la parité à la fois homme-femme et Paris-Province de façon plus correcte que par le passé. Et alors là, je ne révélerai pas le contenu complet de mes notes. On avait même commencé à montrer qui pourraient être les membres de la première promotion de l'IUF. Donc j'ai des noms de gens, on se disait ceux-là, ça serait bien. Tous y sont passés à peu près par la suite et tous sont devenus académiciens par la suite. 6 mois ont passé et je transmets le premier projet de décret de création de l'IUF au ministre et à Claude Allègre. Et puis on s'aperçoit quelques jours après qu'il nous manque un autre décret, c'est là la machinerie, parce qu'il fallait modifier l'article 14 du décret de 84 relative à la délégation et à l'aspect renouvelable qui était jusqu'alors illégal. En mars, Claude nous réunit, comme chaque semaine, et on lui présente la note de création de l'IUF, qui la note, et donc dans les archives de Françoise Chambon figure ce document annoté de la main de Claude Allègre, et on commence à discuter sur la mise en place du dispositif, en particulier comment est-ce qu'on va les nommer, par le biais d'un jury, au début un jury unique pour les juniors et les seniors, et très rapidement, Claude pense que le meilleur président pour lancer cette opération est Laurent Schwartz, qui est contacté et qui accepte. Et puis le temps continue à passer, 8 mois et demi déjà depuis mon T0 se sont déroulés, quand dans mes notes je retrouve Claude Allègre pestant contre les lenteurs administratives, le jury qui n'était pas tout à fait complet est complété, et c'est là qu'apparaît pour la première fois l'idée de qui quitte l'université perd son statut IUF. Et il faut absolument qu'on mette ça. C'était en gros une application de ce que, je crois que c'est moi qui en suis l'auteur, j'ai appelé la loi, je ne sais pas si c'est une loi ou un théorème, de l'inverse du carré de la distance au Panthéon. particulièrement applicable dans les disciplines juridiques où, une fois nommé à Grenoble, on aspire à passer à Nanterre, puis de Nanterre à Paris 4, puis de Paris 4 à Paris 1 pour finir enterré au Panthéon. Vous voyez que cette loi ne souffre pas beaucoup d'exceptions. Au bout de 10 mois, le 21 juin, on installe enfin le premier jury de l'IUF. On n'a aucun texte, rien. On n'a rien pour faire marcher, on n'a rien pour payer les membres du jury qui se déplacent. Ça nous a valu des lettres de gens qui disaient « Vous ne m'avez pas remboursé le déjeuner, mon voyage, machin, etc. » Tout ça a été bricolé. Je suis passé en cours de discipline budgétaire de l'État pour la gestion, mais j'ai été blanchi par la suite. Il a été dit que je n'avais pas cherché à mon intérêt personnel. Donc ça m'a quand même coûté des dizaines d'heures à plancher devant une cour de justice assez inquiétante. Enfin, ça fait partie de ce qu'un universitaire qui fréquente l'administration découvre. Bref, le jury est installé sous la présidence de Laurent Schwartz le 21 juin 1990 et 4 jours plus tard, le comité scientifique que préside Jean-Marie se réunit pour la seconde fois et, comme l'a dit Claude Allègre, il nous donne des vraies recommandations. Ce n'était pas un comité bidon, il travaillait vraiment, il donnait des avis et là il nous a dit « Vous limitez les seniors à 10 ans, pas plus, les juniors à 5 ans, pas plus, et on ne veut pas de permanent. Quant à votre jury qu'on avait déjà fabriqué et qui s'était déjà réuni, il est trop parisien. Vous devez le rééquilibrer et songer à rééquilibrer les défauts de la centralisation. On y avait déjà pensé, Claude y avait pensé, avec les aspects Paris-Province que vous reverrez. » Alors on grimpe d'un cran et je découvre, jeune directeur d'administration centrale, le plaisir d'aller plaider un dossier chez le Premier ministre à Matignon. On transmet le projet de décret au cabinet du Premier ministre et au ministre de la Recherche. Souvenez-vous qu'il est, donc c'était Hubert Curien. Et à l'époque, l'idée, c'est que bah, tout compte fait pour aller vite, l'IUF sera un service du ministère administré par la DRED qui pourra s'entourer d'une commission nommée. On parle des emplois de compensation et on dit qu'il y aura un arrêté pour la répartition entre les académies. C'était l'idée des équilibres Paris-Province. Tout ça reçoit le lendemain un avis favorable de M. Bergougnou au cabinet du Premier ministre. Donc ça nous fait faire toute la démarche de préparation d'un texte législatif ou à publier au bulletin officiel, rapport au Premier ministre, rapport au ministre. 11 mois se sont passés et là, pour des raisons que je n'ai pas toutes retrouvées dans mes notes, mais entre autres tout ce qui était soi-disant impossible dans notre opération, fait que le Premier ministre ne donne pas suite. On nous demande de revenir voir le ministre de la Recherche, de revenir voir le ministre de la Santé, de revoir nos textes. Allez hop, on en est déjà à 11 mois et on a beaucoup perdu de temps et on ne sait plus très bien dans quelle direction aller. 2 mois et demi après, toujours une réunion de Claude Allègre avec ses 4 directeurs, on a beau avoir été retoqué sur tous les textes, on a déjà établi la première promotion du jury de l'IUF et on en analyse les résultats. Et je me souviens, dans mes notes, je marque quelques membres de ce jury sont peu présents ou peu actifs. Les équipes Paris-Province sont bons, sauf en physique. La physique est atrocement parisienne. Il n'y a pas un juriste, il n'y a pas un médecin, il n'y a pas une femme dans le premier élément. Donc il faut compenser avec les juniors. On était en train de bricoler en temps réel. Et puis il faut qu'on mette des étrangers dans le jury, un bon tiers d'étrangers, parce que c'est trop franco-français. Et puis il faut des grands quotas par groupe de discipline. Tous ces éléments se retrouveront dans le texte final. Le comité LEN se réunit pour la 3e fois, c'était une fois tous les 6 mois, le 7 décembre. Il analyse notre système de nomination des membres du jury, il le valide, il nous demande de faire très attention à la place des étrangers. 16 mois ont passé, on a changé encore une fois d'année, quand en février 91, sur l'instruction de Claude Allègre, avec son collègue, son bras droit, Joseph Goy, nous nous rendons à Matignon pour préparer une déclaration générale de Lionel Jospin, du ministre, sur l'enseignement supérieur en Conseil des ministres. Mais ça, c'était pour expliquer toute cette politique que Claude avait inspirée et qu'il vient de vous rappeler. Il y avait dedans la revalorisation, les primes, les post-docs. Je rappelle, parce que j'ai géré ce dossier, que sur les allocations de recherche, à l'époque, elles étaient versées pour 2 ans pour les thésards. On a passé à 3 ans, on a doublé le nombre et on a augmenté le montant de 15% et le budget a été multiplié par 6. On a, en sortant de mon mandat, il y avait 6 fois plus d'argent dans les bourses de thèse que quand on est entré. C'est une des actions discrètes, mais sans doute les plus efficaces qu'on ait menées. Il y avait les pôles européens. Maintenant, on a appelé ça les presses, on les a rendus plus lourds, mais on avait quand même pensé à ça. Les écoles doctorales que nous avons créées, les allocations de recherche, les centres d'initiation à l'enseignement supérieur, les IUFM, création des IUFM, ça n'a pas été un petit dossier, Claude, pour toi. Les IUP, les instituts universitaires professionnalisés, qui, à mon avis, ont été une réforme très astucieuse, tout U2000. Les contrats quadriennaux qui avaient été introduits avant nous, Bernard de Combes en particulier avait travaillé sur ce dossier, mais qu'on a développé et généralisé en passant de la recherche à l'ensemble des opérations du ministère. Et toujours cette question taraudante, faut-il passer par la loi pour réussir à créer l'IUF ? Alors, muni du directeur de cabinet de Lionel Jospin, éminent membre du Conseil d'État et juriste Olivier Schramek, nous discutons au mois de mars pour savoir ce qu'on va pondre comme décret. On en a déjà fait 3 ou 4 versions successives. Quel est le statut? Quelles sont les missions? On en est encore à se poser ces questions-là. Comment est-ce qu'on va réussir à autoriser les décharges de services? Comment est-ce qu'on va structurer les conventions avec les universités? Claude Allègre en a ras-le-bol. Et à ce moment-là, il dit qu'on fait ce qu'on veut, mais on se dépêche. Et si ça doit être une association loi de 1901, eh bien, l'UF sera une association loi de 1901. Et donc, j'ai un feu vert dans mon carnet du conseiller spécial me disant « tu fais une association si il râle sur le reste ». Mais les choses se débloquent. Et les 4 et 15 mars 91, successivement, il y a 2 réunions interministérielles formelles. Cette fois-ci, on ne consulte plus les membres du cabinet du Premier ministre, mais sous la présidence du conseiller du Premier ministre, en présence du conseiller du président de la République, Claude Allègre introduit pour le ministre de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, ses réformes. Il se trouve que de ces 2 dates importantes et ces 2 réunions auxquelles je n'assistais pas, je n'ai pas de compte rendu, j'ai juste un bleu de Matignon avec des modifications relativement mineures, mais c'est là qu'une partie des choses ont dû bien avancer. Et on se retrouve le 11 avril à Matignon, où manifestement, à cause de ces 2 réunions interministérielles, le secrétariat général du gouvernement, une structure qui est mise auprès du Premier ministre, en gros un emmerdeur qui vous surveille en permanence, au plus haut niveau, je m'en souviens de celui-là, le secrétaire général du gouvernement, on a une liste de tout ce qui ne va pas. Alors là, il n'y avait qu'Olivier Schramek qui puisse répondre dans le même langage, avec le même vocabulaire et les mêmes mentalités. Et il répond point par point aux arguments du secrétariat général du gouvernement à Matignon, à une réunion qu'elle, je n'ai pas oubliée, dans laquelle j'ai plein de notes, mais je me suis censuré parce que j'ai écrit des choses qui ne sont pas correctes à dire en public. Et c'est là qu'on décide qu'en fin de compte, l'IUF sera un service du ministère, que la délégation autorisera à rester dans son établissement. Autrefois, quand on donnait une délégation, on n'avait pas le droit d'être délégué dans son établissement. Et sous la note de Schramek, membre du Conseil d'État, face au secrétaire général du gouvernement, dans mes notes explicitement, j'ai « Comment va-t-on cacher le fait qu'il y a un allègement de service ?» Tous ces énarques étaient terrorisés à l'idée qu'on puisse montrer qu'il y aurait un allègement de service. Et donc, au plus haut niveau, on vous disait « Ok, bon, vous insistez, ça fait maintenant 1 an et demi que vous êtes sur ce dossier, on va vous laisser passer, mais vous nous cachez ça, c'est pas propre, il faut le mettre sous le tapis. » 23 avril, j'ai trace d'une réunion avec Claude Allègre et Lionel Jospin où quand même les choses commencent à se débloquer à tel point que ce dont on parle est plus léger, c'est la préparation des médailles et des parchemins à remettre aux membres de la première promotion qui, je vous le rappelle, a été désignée depuis longtemps par des structures qui n'existent pas et qui n'ont aucune valeur juridique. Et je lance alors rue du Thau, où étaient les directions de l'enseignement supérieur, je lance un concours au plus joli dessin pour faire la médaille et il a été remporté, je ne sais pas François si tu t'en souviens, par un collègue qui était un conseiller de la direction de Franck Métra, je crois, de l'enseignement supérieur, qui était professeur d'art plastique dans une université et conseiller sur le moment. J'ai, à ma grande honte, aucune trace de son nom. J'aimerais qu'on le retrouve. Et c'est lui qui a gagné le concours. Et donc la médaille que vous avez pour les anciens, ou que vous avez tous reçue, ou que vous venez de recevoir pour les juniors, les récents, elle est due à ce dessin. Il n'y a plus de médaille ? Il n'y a plus de médaille, Françoise ? C'est vraiment la dèche, hein ? Bon, on pourrait envisager de faire ça sur le budget de l'Institut de physique du Globe de Paris, c'est comme ça qu'on fonctionnait souvent, mais ce n'est pas totalement légal. Hein. Bon, ah oui, ça c'est vraiment pas bien, il faudra que... Monsieur, toi qui as des entrées chez Sarkozy, tu pourrais peut-être obtenir ça. Et puis paf, qu'est-ce qui nous arrive le 15 mai, changement de Premier ministre. Édith Cresson succède à Michel Rocard. Donc la semaine suivante, Lionel Jospin et Claude Allègre sont restés dans leur poste et les directeurs d'enseignement supérieur aussi. Donc nous, on continue, mais on continue avec un nouveau Premier ministre. Et là, Claude a vraiment quelques inquiétudes en se disant, parce qu'il a le sens des calendriers politiques, qu'à partir du mois d'octobre, pour des raisons de calendrier électoral, le Premier ministre qui déjà nous fait des difficultés, l'ancien, il est parti, mais enfin, pourquoi est-ce que la nouvelle serait plus généreuse? Ils vont nous arrêter toutes les réformes et il faut qu'on se dépêche. Et donc, on commence à venir à l'idée que la façon de créer l'IUF, c'est de faire un texte qui soit un règlement intérieur. Alors là, vraiment, ce n'est pas la logique administrative normale. Et le 30 mai, j'envoie au cabinet, donc à Claude Allègre, un projet de décret assez bref avec quelques lignes. L'IUF sera présidé par une personnalité nommée, il y aura délégation, il y aura convention, il y aura compensation, le service sera allégé, il pourra y avoir des invités étrangers, point. et puis un projet de règlement intérieur long, avec tout l'esprit de ce que devenait devenir l'IUF, la décentralisation, l'obligation de résidence, de non-départ de l'université d'un IUF nommé, que j'espère on applique toujours, la décharge partielle, la promotion. On avait dans le premier dispositif promotion immédiate à la classe exceptionnelle de tous les membres seniors professeurs et promotion au poste de professeur de tous ceux qui auraient été encore maîtres de conférences au moment de leur élection, et on l'a obtenu à cette période. Le poste de compensation, la composition des jurys, le fait qu'on ne puisse pas être candidat senior à l'IUF, mais que, et d'ailleurs à l'origine personne, les juniors non plus, on a corrigé ça par la suite, ne pouvaient être candidats, il fallait être présenté par des personnalités extérieures, au moins deux, dont au moins une soit étrangère, étrangère à un laboratoire français, puisque la notion de nationalité elle-même en France, dans l'enseignement supérieur et la recherche, n'a pas de sens. On avait marqué l'équilibre des disciplines, au moins un tiers biomédical, au moins un tiers sciences humaines et sociales, un tiers sciences que j'appelais inhumaines et asociales, parce que j'en avais marre d'entendre parler toujours de sciences dures et de sciences molles. Donc pendant tout mon mandat, on avait le droit de parler que de sciences humaines et sociales et de sciences inhumaines et asociales. On avait les équilibres Paris-Province, avec pas plus d'un tiers pour Paris. Et vous avez vu que c'était difficile. Et puis, qui proposait le jury ? Claude nous réunit le 21 juin en disant « Bon, maintenant, il faudrait trouver un directeur à l'IUF. » Toujours pas nommé, toujours pas de texte. Allez, hop, on nomme notre ami Cusin, premier directeur, en fait, administrateur de l'Institut universitaire de France. Et on est déjà en train de se demander comment on va faire passer la deuxième vague, la deuxième promotion. Donc, la première n'est pas encore créée ni installée que notre collègue Touraine, qui avait été membre du premier jury, est désigné et accepte d'être le président du second jury. Et c'est à peu près pour le deuxième anniversaire du T0, Claude, de l'idée que tu nous avais donnée, que paraît enfin le tout petit décret créant l'IUF, numéro 91-819 du 26 août 1991. Claude Allègre souffle un peu, voyage de recherche, entre autres pour lui, qui n'a jamais arrêté ses activités aux États-Unis. Il me téléphone des États-Unis et il me dit « Vincent, bon, allez, maintenant, on y va. Tu prends l'ensemble des arrêtés, tu modifies l'annulation du comité, tu consultes le Collège de France, il ne faut pas les vexer, tu vois Cusin, tu vois Laine, tu vois Schwartz et tu lances la deuxième vague. Allez, hop. Oui, chef. » Et le 4 septembre, je me réunis avec mes collègues Gazol et Frémont, deux des autres directeurs, et nous travaillons ensemble trois arrêtés qui sont en cours de relecture à la fonction publique. On prépare la sortie de la première liste de lauréats de l'IUF au journal officiel sous la signature de Lionel Jospin. On se pose encore des questions. Encore à ce moment-là, on se demande si on va faire de l'IUF une agence ou un établissement. Et puis, je transmets, fin septembre, le projet de règlement intérieur qui allait devenir le texte majeur. Et avec Claude, c'est Claude qui le fait, on propose à Jospin de signer un arrêté à article unique approuvant le règlement intérieur. Donc l'idée, c'est, vu de Matignon ivoirien, il y a un petit arrêté qui dit « hop, signé Jospin », et puis derrière, il y a un règlement intérieur qui comprend tout ce qu'aurait dû être dans l'arrêté ou dans le décret, c'est-à-dire dans des textes de niveau très supérieur. Entre-temps, Claude Allègre a joint le cabinet du président de la République qui accepte de présider la réunion d'installation de la première promotion de l'IUF pour montrer un peu quelle est l'importance pour le gouvernement et le président de la République de cette réforme. Et j'ai trace d'échange avec Lionel Jospin le 29 octobre, 26 mois depuis le temps T0, où je propose au nom de la DRED que Lionel Jospin signe le texte fondateur sous forme d'une circulaire au président d'université publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale, c'est ce qui sera fait, et que le règlement intérieur soit signé par moi au nom de Lionel Jospin avec seulement un petit extrait au bulletin officiel, en gros masquant le maximum à ceux qui étaient trop pressés pour lire les détails. Et c'est enfin successivement le 14 et le 15 novembre 91, d'où l'idée que ce sont les 20 ans, que je signe l'arrêté et que le ministre signe la circulaire, ce qui est quand même administrativement assez amusant. Le 3 décembre, les choses sont presque arrivées à leur terme. J'envoie une longue note sur la demande de Claude Allègre à Christian Nick, qui, il y a peu de temps, a quitté le poste de recteur de Montpellier, où il est resté longtemps, qui était alors le conseiller pour l'éducation du président de la République. Et en fait, c'est dans cette longue note que, honnêtement, en la relisant, je trouve pas mal. Merci, Françoise, de me l'avoir renvoyée. Je trouve que c'était un beau texte, plutôt mieux que le discours du président de la République qui en a été extrait, où on racontait tout ce que je ne vais pas raconter, que vous êtes probablement en train de lire pendant que je parle, avec l'idée en particulier qu'on créait là un Collège de France sans mur, que c'était un outil pour l'excellence, pour les jeunes, mais aussi pour la décentralisation, et qu'on avait, et c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure en riant un peu, le plein soutien du Collège de France. Il était très important que ce Collège de France sans mur ne soit pas ressenti comme une agression par le Collège de France. Et l'administrateur de l'époque, André Miquel, nous a pleinement soutenus dans toute cette opération. Il était, je crois, d'ailleurs présent à l'installation à l'Élysée. Je voulais vous rappeler quelques noms. Je n'ai pas tout pris et j'ai fait un choix. Et ce choix est lié à ma mémoire et mes goûts personnels. On pourrait en faire d'autres. Pour vous rappeler qui était dans le premier jury de l'IUF, Laurent Schwartz le présidait. Et dedans, il y avait Le Douarin, De Gennes, Jost, Lesne, Malinvaux, Bredin, Le Goff, Touraine, il y en a encore d'autres, mais enfin, vous voyez, le niveau de ce jury était quand même assez exceptionnel avec le recul. Quant à la première promotion de lauréat senior qui vous a devancé de 20 ans, elle comprenait Achère, Brézin, Chambon, Colin de Verdière, Corieu, Cusin, Dubé, Lafont, Lazinski, Meyer, Rouxel, Vauchez et quelques autres. Et parmi les juniors, il y avait Bourguet. Il y avait trois femmes, hein, m'as-tu dit. Il y avait Bourguet, Bréchot, Demailly, Fontcave, Gourier, Hilbert, Kellermann, Morel, la petite Morel, Naquet, Simon et Yokoz. Donc, c'était quand même pas mal. Je vois parmi ces noms des gens qui devaient devenir mes directeurs scientifiques dans la deuxième aventure. Quand Claude devenu ministre, je suis devenu directeur de la recherche et où je retrouve que j'ai largement puisé dans le vivier de l'IUF pour à nouveau chercher des conseils. Bon, les avantages de l'IUF, Claude Allègre les a parfaitement définis. Dans cette note à Christian Nick, je décrivais ce que pourrait être la cérémonie d'installation par le président. Claude Allègre s'était rendu à l'Élysée pour préparer ça. Et dans un style qui n'est pas totalement éloigné du maire de Champignac, pour ceux d'entre vous qui êtes des lecteurs dans ma génération de Fantasio, de Spirou et Fantasio, je terminais, je l'avais oublié, à mon avis ça doit être de Bernard Dormy, ça, hein, Françoise, je terminais par une citation de Jaurès, « La République est située dans la direction des hauteurs et l'on ne peut s'élever qu'en montant jusqu'à elle. » Je ne sais pas si François Mitterrand a lu cette phrase où je lui suggérais de réaliser l'idéal républicain en élevant l'université française. Cocorico. Bon, on parle des dotations, mais c'est secondaire. Je retrouve une note amusante, parce qu'on était déjà en train de travailler sur la deuxième promotion. Touraine me téléphone pour me dire qu'il n'arrive absolument pas à tenir la proportion Paris-Province en sciences humaines et sociales et me supplier que nous relevions l'index d'un tiers et qu'on l'autorise à prendre plein de Parisiens en SHS, parce qu'en SHS, c'est quand même à Paris que ça se passe. Nous avons refusé et tenu bon. Et le 10 février 92, voilà une autre forme d'anniversaire qui nous permettrait de célébrer les 20 ans aussi en 2012. C'est le 10 février 1992, 29 mois et demi après le T0 que je vous ai montré, que François Mitterrand installe à l'Élysée, en grande pompe, avec recteur et président d'université en toge, la première promotion de l'Institut universitaire de France. Ils ont eu droit à des parchemins, ils ont eu droit à des médailles. Et il y a eu toute une série d'allocutions, le ministre Lionel Jospin, le directeur de l'IUF Cusin, la représentante des petits juniors Morel, elle a fait le premier discours devant François Mitterrand, et c'était... Cusin parlait au nom des seniors, je vous demande pardon. Marie-Claude parlait au nom des juniors et le président de la République a fait un discours. On lui a présenté les membres du conseil scientifique, les membres du jury de l'IUF, tous les membres de l'IUF qui venaient d'être élus un par un. Et il a fait un grand discours que j'ai résumé ici, que j'ai relu avec intérêt, que je trouve pas mal, mais enfin pas absolument extraordinaire. Il y rappelait quand même que, et comme l'a dit Claude, il avait placé l'enseignement supérieur et la recherche en priorité du gouvernement depuis 1981. C'est dans son discours, et moi je me suis permis d'ajouter, surtout depuis 1988, et je ne commenterai pas longuement le fait que la politique de 80 à 88 n'ait pas été de la même énergie que celle qui a suivi 1988 pour ce qui nous concerne dans l'enseignement supérieur et la recherche. Voilà, donc le président disait que l'IUF était la compétition basée sur l'intelligence, qui est malgré tout eh bien, la meilleure des matières premières, que c'était l'investissement de l'avenir, que c'était une contribution à l'Europe. Il remerciait Laurent Schwartz et, puisque moi j'avais fini en maire de Champignac ma note à l'Élysée, lui, il terminait son discours en saluant les lauréats, c'est-à-dire vous, ce qu'il y a de plus affiné en France dans le domaine de l'esprit. Et je termine très rapidement, mais Claude vous en a parlé, j'ai fini mon historique, parce que après, c'est l'IUF qui fonctionne de façon normale. La première alternance avec Bayrou et Bigot supprime les postes de compensation. La deuxième alternance, Claude vous a dit pourquoi, quand il devient ministre et que je reviens à la direction de la recherche, d'abord son conseiller spécial, petite parenthèse, autant Claude Alleg, conseiller spécial de Lionel Jospin, ça avait un sens. Autant moi, conseiller spécial de Claude Alleg, je ne vois pas bien ce que j'avais à faire. Mais ça, c'est autre chose. Et donc, la seconde alternance, ben, vous avez vu, nous ne rétablissons pas ce poste. Et la troisième alternance, celles qui se sont suivies depuis, ne l'ont pas plus rétabli. Et c'est vraiment un regret. C'est un regret parce qu'à mon grand étonnement, les présidents d'université, beaucoup trop de présidents d'université, n'ont pas compris très vite ce qu'était l'IUF, se sont pas rendus compte. Lyon est un des endroits qui s'en est sans doute le mieux rendu compte. L'ensemble Lyon-Grenoble ne se sont pas rendus compte à quel point c'était un élément fondamental de l'image de l'université qui leur permettrait de montrer à l'extérieur leur excellence. Ils ont juste vu le fait que, comme les IUF étaient déchargés, ils perdaient du service. Et donc, ce poste était une façon d'expliquer au président de l'université « Non, non, vous n'avez rien perdu, puisqu'on décharge partiellement quelqu'un et qu'on vous donne un poste plein, définitif. » Et on l'a fait pendant longtemps, puis on l'a malheureusement supprimé. Et je terminais en disant que je pense que cet outil que tu as conçu, Claude, et que vous faites vivre, et je vous souhaite pour tous ceux qui viennent de rentrer à l'IUF 5 ou 10, suivant les cas, années merveilleuses, comme j'ai eu le plaisir moi-même d'en passer une dizaine. Et je vous souhaite une très bonne journée.